C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
Alors cette semaine fut celle des décisions et des avancées après 18 mois de discussion entre le ministre de l'Intérieur et les élus corses. Emmanuel Macron ouvre la porte à l'autonomie de l'île. Le président n'a jamais été aussi clair vis-à-vis des autonomistes. Hier, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, ont annoncé des mesures sur le harcèlement à l'école après une série de suicides d'adolescents. Le nouveau ministre de l'Éducation est devenu en quelques années le pilier de la Macronie. Fait-il de l'ombre à Gérald Darmanin qui se veut la star et peut-être le successeur d'Emmanuel Macron? Et enfin, la NUP est-elle en train d'imploser? Une députée soutenue par Mélenchon a déclenché les hostilités envers le patron des communistes, Fabien Roussel. Les alliés de la France insoumise ne veulent pas faire liste commune aux européennes, mais au-delà des chicaneries, les désaccords de fond sont nombreux, notamment sur l'aide à l'Ukraine. On en parle avec Catherine Tricot. Bonsoir.
Bonsoir, Rosine.
Vous êtes directrice de la revue Regard. Bienvenue à vous. Guillaume Daret, bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes
Rosine.
Journaliste à politique, France à France Télévisions, bien sûr. Et Stéphane Vernet, directeur de la direction de la rédaction parisienne de West France et
bonsoir.
Auteur du livre que vous venez de sortir, Le déjeuner secret, enfin plus très secret maintenant, dans les coulisses de la réforme des retraites, et c'est aux éditions West France. On tâchera d'en dire, enfin on va en dire un mot à la fin de cette émission. Emmanuel Macron était en Corse ce matin, le président a fait des annonces importantes sur le statut de l'île.
Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République.
Voilà, Jean-Marie, le mot est lâché, en quelque sorte que c'est une avancée, mais ça va prendre encore du temps. C'est pas en boîte, comme on dit.
Bien sûr, ce sera un processus assez long, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est deux choses. D'une part, le vote des Corses eux-mêmes. Par deux fois, ils ont donné une majorité, cette fois une majorité absolue, au courant autonomiste, qui demande une autonomie. Donc ils ont été validés par le suffrage universel. Et l'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les présidents se sont heurtés au problème corse, ont avancé pour les uns, reculé pour les autres. Personne n'a réussi à vraiment poser le problème dans toute son ampleur, qui est politique, et le résoudre. Donc, ayant ces deux éléments en tête, le propos d'Emmanuel Macron, que je trouve très juste, une autonomie pas contre l'État, mais pas sans l'État, on va y revenir dans deux secondes, c'est un propos qui d'abord fait droit au vote des insulaires eux-mêmes, qui ont voté, encore une fois, majorité absolue en faveur d'un parti autonomiste. C'est aussi c'est aussi une façon de poser le problème sur le plan politique et d'essayer de lui apporter des réponses. Pas contre l'État. Contre l'État, ce sont les indépendantistes, qui ne sont plus dans la majorité du président actuel du Conseil exécutif corse, qui ne sont plus dans la majorité donc de l'Assemblée de Corse. Et pas sans l'État, c'est la réalité d'une autonomie, elle ne peut fonctionner que si l'État joue à plein son rôle d'État dans ses fonctions régaliennes, ce qui n'est pas toujours le cas en Corse, puisque en Corse, il y a des mafias, il y a des problèmes de police et de justice, ainsi de suite. Donc c'est un cadrage assez bien fait. Ensuite, vous dites ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps, parce que de toute façon, à la fois, il faut une inscription dans la Constitution pour que l'autonomie puisse être élaborée, et ensuite il faut un accord politique dans l'île d'abord, et ensuite entre l'île et le gouvernement de Paris, et le gouvernement tout court, sur le contenu de cette autonomie. Et ça suppose que la droite nationale, par exemple la droite sénatoriale, accepte cette démarche, et que la droite insulaire en Corse accepte aussi un certain nombre de compromis. Donc la balle est maintenant dans le camp de la droite, ou j'allais dire des droites. Mais Macron lui-même, de son point de vue, a fait son job, il a fait son travail. Juste un mot sur la méthode. C'est la méthode qu'on aimerait voir appliquée partout ailleurs, s'agissant d'Emmanuel Macron, et qui n'est pas la méthode qu'il applique d'habitude. Il y a eu 2 ans de discussion entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et les élus corses. Au bout de ces 2 ans de discussion, s'ébauche un compromis. Après ce compromis, le président en tire les leçons et fixe des axes. et renvoie ensuite aux acteurs la réalisation des choses. C'est un modèle en matière de gouvernance, mais ça n'est appliqué nulle part ailleurs, autre qu'en Corse, s'agissant d'Emmanuel Macron.
Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un bouleversement absolu avec l'attitude d'Emmanuel Macron à l'égard de la Corse.
Totalement.
Lors de son premier quinquennat.
C'est un virage à 180 degrés.
J'avais suivi son premier déplacement en 2018, quand il était présent en Corse. Ça avait été marqué notamment par ce moment où il y avait une cérémonie en hommage, notamment au préfet Erignac, où en face de lui, il y avait Gilles Simeoni, ancien parmi les avocats à l'époque, effectivement, d'Ivan Colonna, et Emmanuel Macron avait eu ces mots, notamment « ça ne se plaide pas ». Et ça avait créé un froid absolu, une forme de rupture, on peut dire d'ailleurs, Jean-Marie, je pense, entre le président de la République et une partie des Corses. Et c'est vrai que ça a été, pendant tout ce premier mandat et tout ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a ressenti une forme d'incompréhension quasi permanente entre le président de la République, qui a même donné le sentiment à un moment un petit peu de se désintéresser de cette question corse, et de leur autre côté, effectivement, les autonomistes, puisque les indépendantistes sont sortis de la majorité, comme on le disait tout à l'heure, avec Gilles Simeoni, qui, moi, me disait au début du premier quinquennat qu'il avait un espoir en Emmanuel Macron en se disant « c'est pas un président comme les autres, c'est un président jeune qui sort un peu du cadre, peut-être qu'on va enfin résoudre cette question corse ». Donc il l'attendait depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est un virage à 180 degrés d'Emmanuel Macron sur cette question.
La phrase que vous rappelez avait choqué pas seulement les...
Bien sûr.
En Corse, elle avait choqué les juristes et les avocats partout en France.
Peut-être, est-ce que vous avez autre chose à rajouter
où on passe... Moi, juste là, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est la concordance des temps, parce que pendant que Emmanuel Macron prononçait ce discours à Ajaccio, vous aviez en même temps Elisabeth Borne à Saint-Malo, qui faisait un discours devant le congrès des régions de France, où les élus locaux, qui, comme depuis des années, continuent à réclamer de la différenciation, de l'expérimentation, le droit à faire autre chose, avoir plus de liberté. Elle leur a dit « moi, j'ai pas d'annonce à vous faire ». Et en fait, il y a l'appel de Saint-Malo d'un côté des élus locaux et le discours d'Ajaccio de l'autre. Et en fait, c'était pas à Saint-Malo qu'il fallait être ce matin, mais à Ajaccio. Parce que les réponses aux questions qui se posaient à Saint-Malo, elles étaient à Ajaccio.
Déjà des Bretons qui disent « important ce modèle d'autonomie
en
Bretagne ».
Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, les élus, la majorité des élus régions soutiennent Gilles Simeoni d'une façon générale.
Catherine, vous, on va vous entendre, on va changer de sujet. Le harcèlement, à moins que vous ayez...
Non, allez-y.
Vous avez peut-être...
On y reviendra.
Sur la Corse,
non,
si juste vous
en sur un tout petit mot, c'est
je pense que ça
lève un obstacle politique pour la suite, qui est quel est le projet ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a vraiment un problème de définition du projet pour la Corse qui est un peu encalminé et qui a besoin d'être... Mais c'était un obstacle, c'était un préalable. Voilà. Donc le préalable est levé. Exactement. On va pouvoir passer à une réflexion un peu approfondie sur l'avenir de cette île et sa place dans les transformations du monde, notamment écologique et migratoire.
Alors, je disais, le harcèlement à l'école est devenu le sujet central de la rentrée à l'éducation nationale. Il y a ces drames qui ont mené à la mort des enfants, mais il y a aussi la réaction lamentable du rectorat que Gabriel Attal a qualifié de courrier de la honte. Mardi, aux questions au gouvernement, une députée Renaissance a créé l'émotion dans l'hémicycle. Écoutez-la.
Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période dénoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi.
Voilà, témoignage émouvant qui tranche aussi avec les moments d'empoignade dans l'hémicycle. C'est aussi ça, la politique, Catherine ?
Oui, certainement. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est une façon de parler aussi des transformations de notre société qui ont besoin d'être intégrées dans la politique publique. Et en l'occurrence, je trouve que c'est bien adressé au ministre de l'Éducation nationale. Et je pense qu'il y a des politiques à mettre en œuvre et des moyens à développer, une réflexion à avoir qui, certainement, là, on en est à ses balbutiements, peut-être avec un peu de retard quand même à l'allumage.
Ouais.
Parce que c'est quand même cette question du harcèlement, ça fait un moment qu'elle est sur la table.
Il y a fallu plusieurs morts, effectivement.
Voilà. S'y met, donc il y a probablement des aspects répressifs, mais il y a quand même surtout une politique de prévention, de détection et une approche plus globale d'éducation qui doit être réévaluée et qui, moi, je crois, manque un tout petit peu de cette profondeur pour prendre le sujet véritablement. Là, en ce moment, on est assailli d'informations sur les, ouais. les problématiques qui se posent dans la jeunesse, sur sa manière de se situer dans notre monde. Et là, c'est un des aspects, il y en a beaucoup d'autres, il faudrait peut-être donner un peu plus de poids aux questions de soutien psychologique aux enfants, aux professeurs, aux parents, et d'avoir vraiment une prise en charge par le système scolaire de ces questions de comprendre ce que c'est que l'autre, l'altérité, la bienveillance, ouais. L'écoute.
Enfin, bah justement, voilà. Alors, parmi les mesures, il y a les cours d'empathie. Alors, pareil, à la rentrée...
Il faut réfléchir un peu. Enfin, il faut y aller un peu, quoi. Il faut descendre un peu en profondeur pour, à mon avis, ne pas rester dans des cours qui seraient par trop superficiels et sans... Je pense que les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas toujours les mots que nous employons, nous, les adultes. Ils ont l'impression que ce n'est pas grave. Ils s'insultent, ils se disent des choses extrêmement violentes. Et il y a une espèce d'écart. Enfin, bon, moi, j'ai un adolescent à la maison et je trouve que ce n'est pas simple d'arriver à juger ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Et pour nous, pour eux, et à quel moment ça dérape, à quel moment ce n'est plus supportable. Et ouais. cette espèce de banalisation de la violence verbale en particulier. Voilà, je trouve qu'on aurait besoin de réfléchir un peu plus à ce que sont devenus nos enfants.
Et Stéphane Vernet, c'est vrai que la société ne donne pas le bon exemple, en l'occurrence, que ce soit les émissions à la télévision parfois, les réseaux sociaux, et parfois la politique, les invectives.
Oui, complètement, totalement. En fait, si vous voulez, je pense que la question du harcèlement scolaire, c'est pas vieux comme le monde, c'est vieux comme l'école. Hein, et le harcèlement, c'est pas une nouveauté. Mais il me semble que ces dernières années, les choses ont beaucoup évolué parce que la société a changé, comme l'a très bien dit Catherine. Il y a une façon d'être à l'autre, ce que vous décrivez dans le mauvais exemple qui est donné par certaines émissions à la télévision, une sorte d'humour, etc. L'absence de la bienveillance, le fait de finalement de se valoriser en dégradant, en dépréciant l'autre, c'est passé dans ça s'est installé dans une culture commune. Vous ajoutez les réseaux sociaux qui permettent en fait de franchir les murs de l'école, etc., et qui ont servi de caisse de résonance à l'ensemble. Et le problème, c'est que du coup, le harcèlement qui a toujours existé, il a pris de nouvelles formes, il s'est développé, il s'est enkysté. Et ça fait 30 ans, en fait, qu'on a laissé le phénomène se développer sans rien faire. C'est-à-dire en mettant le tapis par-dessus, en disant « oui, mais non, c'est pas grave, on va pas non plus ». Enfin bon, il y a une incapacité collective de la société, parce qu'elle est culturelle, une incapacité collective à répondre à ça, et de l'école en particulier. Donc moi, ce que je vois dans la démarche à laquelle on assiste aujourd'hui, je ne sais pas si les mesures proposées seront efficaces. Je ne sais pas si elles seront pertinentes. Il faut qu'on voit ce qu'elles donnent. Ce que je trouve très intéressant, c'est la force avec laquelle un Gabriel Attal ou une Elisabeth Borne en parlent publiquement, et l'engagement, le niveau d'engagement qu'ils mettent dans ce sujet, parce que le fait d'en parler aussi fortement, aussi clairement pour le dénoncer et pour en faire un sujet de société, à mon avis, c'est déjà la moitié du chemin qui est faite. C'est-à-dire qu'on va en parler, on va y réfléchir et on va en discuter aussi dans les familles. Et le regard peut changer, à mon avis, beaucoup plus efficacement comme ça qu'à travers les cours d'empathie ou les mesures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que déjà le fait d'en parler avec autant de force et de clarté, je pense que c'est une très bonne chose.
On reproche souvent, Guillaume, aux politiques d'avoir du retard à l'allumage, de laisser pourrir les situations par inertie, par une administration trop lourde. Est-ce que Gabriel Attal, là, il y a un petit mélange chez lui de Macron et de Sarkozy, c'est-à-dire on va vite, on essaye d'aller aussi vite.
Aussi vite. Après, je pense que la première chose, c'est qu'il y a évidemment un enjeu politique. Après, je pense qu'il ne faut pas enlever le fait qu'il y ait un engagement sincère sur cette question. Oui. On sait que c'est suivi d'ailleurs de très longue date par Brigitte Macron elle-même depuis le début du premier quinquennat. Rappelez-vous une famille qui avait été reçue effectivement d'abord par l'ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui n'avait pas été satisfaite, qui dans un deuxième temps avait été reçue par Brigitte Macron. Donc il y a une volonté d'agir vite, il y a une volonté aussi d'imprimer politiquement de la part de Gabriel Attal, que ce soit pour lui ou pour la cause effectivement qu'il défend, montrer rapidement que le gouvernement se mobilise. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un retard à l'allumage des politiques sur cette question-là.
Parce que, comme vous le disiez,
c'est quelque chose dont on prend conscience progressivement. C'est-à-dire, on ne sait pas si, quand dans la cour de récréation, un de nos enfants dit « il m'a dit ça », ça relève de la, parfois de la mauvaise blague, ou si c'est récurrent, ou si c'est... je vais prendre mon exemple personnel. On voit que, par exemple, dans les réunions de parents-professeurs, maintenant, au début de l'année, la maîtresse dit, voilà, n'hésitez pas très rapidement à me le faire savoir s'il y a des moqueries qui sont répétées. C'est la notion de répétition qui doit vous alerter. Donc, il y a quand même une prise de conscience générale du côté du ministère et du côté des enseignants.
Enfin, il y a eu quand même plusieurs morts qui se sont succédés voilà, ces derniers temps.
Excusez-moi Roselyne, du côté de l'administration, ce qui est pointé du doigt par, par Gabriel Attal, la responsabilité et les problèmes de détection par l'administration et par les rectorats, comme on l'a vu effectivement dans le cas de Versailles.
Oui, mais d'un autre côté, quand il y a des problèmes comme ça, est-ce qu'un élève peut facilement pousser la porte d'un médecin scolaire ou d'une infirmière scolaire qui... Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est compliqué. Jean-Marie,
il y a aussi, je veux dire, ça met en cause toujours les services sociaux et autres. Il y a eu cette petite fille qui a été tabassée par ses parents. Personne, semble-t-il, ne s'en était aperçu dans le cadre scolaire, ainsi de suite. Donc, mais c'est vrai, pour reprendre tout ce qui a été dit là, qu'il y a quand même une porosité complète entre les enfants et les parents. Donc vous ne pouvez pas avoir une société aigrie ou agressive ou violente d'un côté, et puis tout d'un coup à l'école, une espèce de havre qui passe complètement à côté et qui soit la tranquillité. La tranquillité, c'est pas possible. Donc voilà, ça renvoie quand même aussi beaucoup au comportement des parents aujourd'hui, enfin des uns et des autres aujourd'hui.
Et plus politiquement, pour rester sur Gabriel Attal, il a 34 ans. C'est vrai que lorsqu'il était au porte-parole, c'est quand même un poste assez, pardonnez-moi l'expression, un peu casse-gueule, où vous pouvez faire des impairs. Il y en a qui ont laissé leur carrière sans citer de nom. C'est vrai qu'il a 35 ans, il a le temps de se planter, mais
en attendant, il fait de la politique.
Il vole de victoire en victoire pour l'instant.
Il est un des rares ministres à faire de la politique. Donc ça marche.
Il n'est pas rentré dans le dur encore.
Non.
Voilà. C'est-à-dire que ça peut être un tremplin, mais ça peut être aussi la roche tarpeyenne.
Oui, mais en même temps, il a commencé d'affirmer une place, une personnalité et une place qui fait que, par exemple, dans la course qui s'était engagée, un peu en avance, Gérald Darmanin était parti le premier. Ouais. Et là, très clairement, Gérald Darmanin est un petit peu doublé par Gabriel Attal. Et donc on verra jusqu'où ça va. En tout cas, Gabriel Attal, qui n'avait pour ambition jusqu'à présent que la mairie de Paris, va peut-être changer d'objectif. Mais c'est vrai qu'il y a une partie comme ça, mais c'est normal, c'est la vie politique. Et comme ça, il est heureux qu'il y ait quand même des gens ambitieux dans la vie politique et des gens qui marquent un petit peu les esprits.
Donc, ils vont pas tous en privé.
Plutôt que des technos, plutôt que des gens complètement dont on ne connaît même pas le nom ni les attributions. Voilà.
Catherine ?
Oui, ce qui est étonnant, c'est que dans la Macronie, on peut dire qu'il y a une discussion aussi sur dans quel sens sera la suite politiquement. Or, Gabriel Attal, qui vient plutôt de la gauche, en fait, là, se positionne sur les terrains, je dirais, de régalien, plutôt de droite. En fait, on dirait qu'il veut faire de la concurrence à Darmanin. On a l'impression que c'est en train de s'embouteiller à droite de la Macronie et que finalement, il n'y a pas grand monde qui, pour l'instant, est en train de faire émerger une version soit plus proche de la version originelle de la proposition macronienne, soit nouvelle. Mais en tout cas, là, pour l'instant, moi, je n'entends pas chez Gabriel Attal une version, je dirais, plus progressiste, et en particulier pour le domaine qui est le sien sur l'école, je ne sais pas ce qu'il va proposer et comment il va s'attaquer à cette question.
Cela dit, le harcèlement, c'est transcourant. Hein.
C'est transcourant, mais ça le met pas. Les autres prises de position qu'il a pu avoir ne le mettent pas sur un terrain à gauche pour aller dans des classifications simplistes.
Juste un mot très rapide. Vous dites qu'il fait de la politique. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, il fait de la politique. il sait en faire et il en fait très très bien par rapport à un certain nombre d'autres membres du gouvernement que je ne citerai pas. Je pense que c'est un
de ceux qui des noms.
Non, mais je pense que c'est un de ceux qui en fait le mieux. Et notamment, là où il est malin, je trouve, si on parle que de politique, c'est que je vous rappelle qu'à la rentrée, on a eu une grande interview du président de la République dans Le Point, 17 pages, dans lequel Emmanuel Macron dit très clairement qu'en réalité, les enjeux sont tels en matière d'éducation nationale que c'est de sa prérogative. Donc moi, j'ai cru que le ministre de l'Éducation nationale, c'était Emmanuel Macron. Et en fait, sur ce dossier harcèlement, là où Gabriel Attal, d'un point de vue politique strictement parlant, est très bon, c'est qu'en fait, il arrive à exister et à revenir sur le devant de la scène sans pour autant déjuger ou faire de l'ombre au président de la République. Et c'était pas forcément évident.
Et d'ailleurs, il n'y a qu'un pas pour penser que peut-être Emmanuel Macron, ne voulant pas choisir entre Bruno Le Maire, Édouard Philippe ou d'autres dans la perspective de la présidentielle à venir, pourrait dans un premier temps pousser quelqu'un comme Gabriel Attal.
Ouais. Il choisit son dauphin, Jean-Marie ça...
En général, il élimine son dauphin.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a visiblement une entente cordiale qui a été décidée entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal, parce que pendant un certain nombre de mois, ça a sacrément frotté, notamment, vous savez, quand il y avait eu la proposition de Gabriel Attal d'une forme de carte d'identité numérique dans laquelle on mettrait à peu près tout. Gérald Darmanin l'avait très mal pris au ministère de l'Intérieur, estimant ne pas avoir été prévenu. Eu un petit peu paix des braves en disant « travaillons et on verra plus tard quand la course sera lancée ».
C'est ce que j'appelle ne pas chercher à séduire la gauche.
Oui. Alors justement,
d'autant que Gabriel Attal se rapproche d'Edouard Philippe. Enfin, c'est ce que disent les gazettes, donc je pense que c'est vrai.
Alors justement, à propos de la gauche, donc pas de liste commune aux élections européennes, des désaccords sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, désaccords sur la baïa, et enfin cette petite phrase lâchée comme une bombe par une députée proche de Mélenchon, il y a du Doriot chez Roussel. Alors Jacques Doriot, je vous rappelle, c'était un ancien communiste devenu fasciste qui a combattu sous l'uniforme nazi. Voici la réaction ce matin sur France Inter de Jean-Luc Mélenchon.
Ce n'est pas moi qui ai une divergence avec lui, c'est lui qui a une divergence avec ce qu'il a lui-même signé, qui est l'accord que nous avons fait sur 640 points. Monsieur Roussel a décidé tout seul, et il est le seul à avoir fait ça, qu'il n'y aurait plus de candidature commune, ni aux européennes, ni aux municipales, ni aux présidentielles. Cet homme a donc décidé, de sang-froid, de nous remettre dans une difficulté déjà plus grande que celle dans laquelle on est. On est tous mal à l'aise quand on voit que le résultat, ça a donné à la présidentielle, Madame Le Pen, au deuxième tour.
Voilà, c'est lui.
Mal à l'aise, on est tous mal à l'aise quand on voit comment la France insoumise s'exprime, ou plutôt invective. On parlait tout à l'heure du climat de violence, etc. La véhémence, elle est là, elle est chez lui. Cela dit, sur Doriot, il faut rappeler une chose. C'est vraiment l'insulte, par définition, qu'on se jette à la figure quand on veut vraiment... Contre Michel Rocard... Roland Dumas était préposé par François Mitterrand aux formules de ce genre. Et donc Michel Rocard, plus d'une fois, a été traité de gauche américaine, mais aussi de tentation doriotiste. Donc c'est pas nouveau à gauche qu'il y ait ce genre d'invective, vraiment pas nouveau. Mais ça montre qu'on cherche à éliminer quelqu'un. Quand on emploie ce genre d'argument, on le discrédite, on le délégitime complètement. Donc du point de vue de LFI, le patron du Parti communiste est délégitimé, ça c'est clair. Je pense que la NUPES est quand même, depuis un certain temps, est enterrée par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Mais s'agissant du dirigeant communiste et de M. Roussel, je pense qu'il fait une analyse très simple qui consiste à dire, que beaucoup font avec lui, si nous avons demain un face-à-face Mélenchon-Le Pen, Mme Le Pen est élue, quoi qu'il arrive. Donc il faut absolument éviter qu'il y ait à la présidentielle un face-à-face Mélenchon-Le Pen. Ça veut dire qu'il faut que la gauche trouve quelqu'un d'autre ou s'allie avec quelqu'un d'autre pour faire barrage à Marine Le Pen comme il le souhaite, mais en écartant Jean-Luc Mélenchon, qui est justement l'homme par qui on est sûr que Marine Le Pen va gagner. C'est ça, je pense, la démarche de Fabien...
De Fabien Roussel, pardon.
Quant à Mélenchon, lui, là, pour tracer sa route et pour être sûr d'être le candidat, il fait le ménage. Il a fait le ménage dans son propre mouvement. Il va continuer de le faire et en ferraillant ici.
Il joue la radicalité, donc.
Il joue la radicalité, la stratégie,
Catherine.
Il n'en change pas un iota. Il continue sur le même discours qui, on le sait, le fait reculer un peu plus.
Donc, stratégie pas très payante.
C'est-à-dire que c'est stratégie pas très payante, sauf que ça l'a mis à 22% l'année dernière. Donc, on ne peut pas vraiment dire que...
Mais il s'est passé des choses, entre
temps. Oui, mais ce qui est l'analyse de Jean-Luc Mélenchon, c'est que la gauche ne peut devenir attractif que si elle revient sur une base vraiment de gauche et donc en rupture avec, pour aller vite, le bilan de François Hollande et puis les évolutions du Parti Socialiste sur le long cours. Donc je pense que ça, c'est probablement une analyse que partage Fabien Roussel également, parce qu'ils sont quand même tous les deux, on va dire, du côté de gauche de l'échiquier. Moi, je crois que l'analyse est encore plus grave que ça. C'est-à-dire que je pense d'abord que Jean-Luc Mélenchon veut rassembler les siens. Donc, il pense qu'il joue la carte du premier tour et pas la carte du second tour. Dans un premier temps, peut-être qu'il n'a pas tort de faire ce premier pari. Mais la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une espèce de course pour savoir qui va avoir le leadership dans la gauche après. Je ne crois pas que grand monde ait beaucoup d'illusions sur le fait que
ce ne sera pas le Mélenchon.
Que ça sera Mélenchon qui puisse être candidat face à Marine Le Pen et ou que ça puisse bloquer Marine Le Pen. Je pense même pas que Jean-Luc Mélenchon le pense. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez peu crédible que la majorité des Français se rassemblent sur le nom de Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît très hasardeux. Par contre, ce que je pense, c'est que Mélenchon s'inscrit sur la durée et que lui, il s'imagine devoir construire la force d'après, c'est-à-dire être la gauche d'après, comme Fabien Roussel imagine. Je pense qu'ils sont tous les deux dans l'état suivant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en 2027 et ne pas laisser un champ de ruines. Je ne dis pas qu'ils ont l'un ou l'autre raison. Ce que je pense, c'est que leur réflexion, elle est déjà sur la construction, sur quelle base on peut continuer à avoir une gauche en France. Mélenchon a une proposition, Roussel une autre, et probablement les socialistes et les écologistes aussi. C'est un peu ça actuellement qui est la préoccupation de la gauche.
Donc s'il n'y a pas de... si la gauche ne se rassemble pas, elle a peu de chance, en vérité, de se retrouver face à Marine Le Pen.
Elle peut se retrouver pas loin du second tour, effectivement, puisque quand on voit les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Après, c'est certain que les 3 ou 4 points qui peuvent lui manquer, c'est d'ailleurs le reproche qui est fait en permanence par les insoumis à Fabien Roussel par rapport à la présidentielle de l'année dernière, c'est-à-dire vous nous avez empêché d'être au second tour de l'élection présidentielle. Après, pour 2027, la question semble réglée. Fabien Roussel, il y a une quinzaine de jours sur RTL, le matin, a dit mais de toute façon on ne se réunira pas d'ici la présidentielle. La question lui a été posée en disant mais est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Il est certain qu'en 2027 je ne vais pas rester tout seul place du colonel Fabien dans mon bureau, donc c'est plié de ce côté-là, c'est à peu près réglé. Lui veut être candidat. La question c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer, moi je pense, au Parti Socialiste, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus du Parti Socialiste qui expliquent aujourd'hui que même si tout n'est pas rose, c'est le cas de le dire, il y a un travail de fond qui a été engagé par Olivier Faure qui est assez intéressant. Est-ce que ça sera porté politiquement? Ça, c'est autre chose. On sait que Bernard Cazeneuve, lui, a essayé de créer une alternative autre que celle du Parti Socialiste.
C'est quoi ce travail de fond? Ça m'a peut-être échappé.
Sur les idées, sur quelle nouvelle gauche, sur effectivement qu'on fait du bilan de François Hollande. Après, le problème de Jean-Luc Mélenchon pour aller au deuxième tour et pour être élu président de la République, c'est de faire venir à lui toute cette gauche, je dirais, sociale, socialiste qui votait François Hollande, qui votait...
Mais un peu plus que la gauche.
Oui, mais qui votait Martine Aubry et qui, jusqu'à la dernière élection présidentielle, n'a pas voulu voter pour Jean-Luc Mélenchon, le trouvant trop radical, et s'est retrouvé, par exemple, effectivement, en 2017 chez Benoît Hamon quand même, ou chez Fabien Roussel en 2022, et qui en revanche s'est déplacé pour la NUP, parce qu'il faut reconnaître que la NUP a donné un sentiment de fierté à une partie des électeurs de gauche, y compris ceux...
Qui se sont sentis représentés.
Voilà, y compris ceux qui disaient « jamais je ne voterai pour la France insoumise ». Il y a eu un côté « bon, enfin ils se mettent d'accord, si c'est un candidat LFI, bon allez, tant pis, je vais quand même voter pour lui, mais enfin ils se mettent d'accord ». Et c'est ça qui les rend totalement fous aujourd'hui.
Mais Stéphane, la personnalité quand même de Jean-Luc Mélenchon reste charismatique. Ça reste un personnage, on va dire, à qui on porte un intérêt, qu'elle soit un intérêt qui soit intellectuel ou même...
Ah oui, c'est un vrai tribun, il est très identifié, il est très doué, ça pose pas de questions, et c'est un vrai leader.
Mais est-ce que sa radicalité peut l'entraîner
Non, alors, ça a déjà été dit, mais je confirme, en fait, la problématique de la NUPES, c'est que, en fait, c'est Jean-Luc Mélenchon qui ne veut plus de la NUPES, parce qu'il sait que la NUPES ne veut plus de lui. Parce que la problématique, c'est que tous ses partenaires sont persuadés...
Et seul contre tous, quoi.
Que si c'est lui qui se présente au nom de la gauche en 2027, il sera au deuxième tour et il peut perdre contre Marine Le Pen. Ils sont persuadés de ça, ils le savent. Et y compris au sein de la France insoumise, vous avez un certain nombre de militants ou de leaders de la France insoumise qui partagent la même analyse et qui se disent comment on fait pour avoir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire choisir quelqu'un qui vienne de la gauche et choisir non pas quelqu'un qui nous permettra d'être au second tour, parce qu'il se dit si on est unis, si on a un programme commun, si on travaille ensemble suffisamment en amont, on arrivera à être au second tour. Donc la question, c'est plus de savoir être ou ne pas être au second tour. La question, ce sera qui choisir pour avoir le plus de chances d'accéder à la présidence de la République, de gagner au second tour. Et c'est ça qu'ils sont en train de se dire. Jean-Luc Mélenchon le sait. Et c'est pour ça qu'il tape à fond sur la NUPES, parce que comme elle ne veut plus de lui, bah lui veut tuer son propre bébé. Après, il y a
Olivier Faure est quand même, c'est un de ceux qui quand même protège le plus Jean-Luc Mélenchon au sein de la NUPES. Parce qu'on voit que les Verts...
Non, Olivier Faure, il fait la même analyse. C'est, en fait,
j'avais le sentiment qu'il était moins...
Il va peut-être pas le dire très fort, mais il fait la même analyse. Mais non, il fait la même analyse. Et si vous voulez, je pense...
Oui, mais il est moins frontal.
Il y a juste un truc que je voudrais dire à propos de Fabien Roussel, c'est que la problématique de Fabien Roussel est complètement différente. Ce qu'on ne comprend pas avec Fabien Roussel, c'est que les communistes, aujourd'hui, sont persuadés que s'ils se sont effondrés, c'est pas parce que le mur de Berlin est tombé, ils sont... persuadés que s'ils se sont effondrés, c'est parce qu'ils ont eu des mauvais dirigeants et des gens qui n'existaient pas sur la scène médiatique. Robert Hue, mais pire, Pierre Laurent, qui se souvient de Pierre Laurent, personne. Et donc, ils partent de ce principe-là en se disant, si on veut ressusciter le Parti communiste, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on fasse du bruit.
Il faut une personnalité.
Et voilà. Et donc,
et c'est ça, d'ailleurs, c'est
mais
peut-être
ce que fait Fabien Roussel, c'est ça. Et il le fait très bien.
Un peu à la marche, à la
Germaine. Il occupe l'espace, il occupe l'espace médiatique.
Mélenchon, hein.
Mais exactement.
Besoin de remonter.
Sauf que lui, il sait très bien qu'il ne va pas gagner la présidentielle. Et il cherche pas à gagner la présidentielle. Il cherche à ressusciter le Parti communiste. Et donc, comme vous avez des alignements différents, des stratégies différentes, eh ben, on a ces hiatus qui donnent lieu à des clashs publics qui parfois sont très forts, parce que à chaque fois que Fabien Roussel crie très fort, bah, les caméras se tournent vers lui, et Jean-Luc Mélenchon parce que il défend son job dedans 4 ans maintenant, voilà.
Merci beaucoup. On va essayer de parler la fin de votre livre, mais tout de suite, on va le faire. Véronique Raissou nous attend pour la politique sur les réseaux. Bonjour, ma chère Véronique.
Bonjour. Premier, on va faire vite pour qu'on ait pour parler des lieux de Stéphane.
Non. Voilà, donc on parlait de Gabriel Attal tout à l'heure et du harcèlement. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux?
Alors en fait, c'est surtout, j'aurais voulu vous parler d'autres choses, mais c'était évidemment un des sujets les plus importants pour les internautes. Alors je ne vais pas vous revenir sur le ministre le plus populaire, le ministre dont on parle le plus, le ministre qui pour le moment fonctionne le mieux, mais l'une des raisons de cette recette, vous avez les images là, j'ai juste fait un petit montage, c'est en particulier lorsque il a égrené les noms les prénoms des victimes de harcèlement à l'Assemblée nationale. En fait, ça a énormément été repris, en particulier sur TikTok. En fait, ça donne un sentiment de proximité, un sentiment d'humanité, un sentiment de compassion et que son combat est réel. Et en nommant les victimes, les gens ont eu l'impression, et c'était principalement ça des commentaires, que oui, effectivement, il sait de quoi il parle. Et ça n'est pas de la politique en soi, même si, comme vous l'avez fort justement dit, c'est sans doute le ministre qui fait le plus de politique, mais en mettant des noms sur ces mesures, ça rendrait les choses très concrètes. Ensuite, le plan harcèlement, je voulais résumer, en tout cas, surtout, je vous ai mis ce que les internautes ont retenu sur l'ensemble de ce qui a été annoncé. Vous avez le premier point qui est, c'est en termes de volume. Vous voyez que les premiers volumes, les mesures les plus importantes sont celles qui sont plutôt saluées. Et les deux dernières sont celles qui sont un peu moins saluées. La première qui est la plus saluée et qui est plutôt appréciée, c'est la notion de bannissement des harceleurs des réseaux sociaux. Compliqué à faire, un bannissement temporaire, mais une réalité qui est, les uns et les autres disent, finalement ça n'avait jamais été proposé. Ça va être un peu compliqué à faire, mais c'est plutôt salué, plutôt apprécié. Le deuxième, c'est le 3018, le numéro unique, qui n'est jamais suffisamment rappelé dans les médias. Et les uns et les autres se réjouissent du fait qu'il y a un numéro, qu'on doit l'apprendre par cœur et qu'on peut avoir un soutien et que désormais ce sera poussé. Ensuite, vous avez le bouton de signalement sur les réseaux sociaux. Ils en ont beaucoup parlé et c'est plutôt apprécié. C'est pour ça que j'ai mis dans les verts. Mais il y a pas mal de doutes parce qu'il y a déjà aujourd'hui des boutons pour signaler quand vous avez du harcèlement. Mmh. Sauf que le bouton aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça devient derrière. Donc c'est le principal, leur reproche. Vous signalez et on ne sait pas ce que votre signalement devient. La saisine systématique du procureur de la République n'était pas le sujet le plus commenté, mais en revanche, c'était de loin celui le plus apprécié par les Français. Je grouille, vous me faites subtilement comprendre, donc je me grouille.
Allez, grouille, Véro.
Juste le cours d'empathie, vous faire un tout petit retour, parce que c'est celui qui a été aussi pas mal critiqué. C'est pas tant que les Français trouvent que ça n'est pas bien d'avoir de l'empathie, mais ils considèrent que globalement, le vrai sujet serait plutôt des cours pour apprendre aux adolescents ce que veut dire être sur les réseaux sociaux. Parce qu'on part du principe qu'ils sont natifs réseaux sociaux, donc ils savent de quoi ils parlent. Sauf que non, les trois quarts n'ont pas forcément forcément toutes les notions, à commencer par exemple sur la fameuse extimité dont on a déjà parlé ensemble, mais qui détruit des adolescents et des adolescentes. Et ce n'est pas un sujet de cyberharcèlement, et on peut l'apprendre à l'école. Et donc, en gros, remettre un peu de bon sens, poser des règles, ça ne peut pas faire de mal. Donc, ce n'est pas l'empathie, mais globalement, rappeler aux uns et aux autres, en fonction de leur âge, ce qu'il faut faire. Voilà, on peut parler du bouquin si vous voulez.
Non, on va parler d'une campagne contre les excès de l'alcool qui s'installe donc, chez les jeunes, et le gouvernement veut faire une campagne. Alors, c'est vrai, peut-être que les politiques, il faudrait qu'ils arrêtent aussi de boire... pendant les reportages lorsqu'ils sont en campagne, déjà, et d'une. Hein,
pourquoi pas ? Alors, le premier chose, c'est évidemment le ministre qui a lancé sa campagne sur Twitter et qui a annoncé que cette campagne avait pour but de sensibiliser les jeunes à une forme de banalisation de la consommation d'alcool. Évidemment, vous vous doutez bien que qui dit campagne gouvernementale dit critique. Alors, la première des critiques a été sur le fait qu'il n'y a pas de message dissuasif dans cette campagne. Vous voyez, c'est boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool. C'est la base. Et en gros, toute la campagne est sur cette logique de c'est la base qu'on voit pas. Là, qu'on voit pas. Et bref. Donc, il y a en bas de chaque affiche le c'est la base. Et quand vous avez ce genre de critique, eh bien, évidemment, les uns et les autres ont fait des détournements. Donc, en France, picoler, c'est la base. C'est l'image qui a été la plus partagée avec tous les politiques qui, comme vous le dites, Roselyne, pendant qu'ils font campagne, boivent. Donc, en France, picoler, c'est la base. Boire, d'accord, mais avec l'argent public, c'est la base. Et en gros, vous imaginez bien que les uns et les autres se sont défoulés sur la base avec toujours le ministère des bras croisés que nous suivons désormais régulièrement et qui dit Aurélien Rousseau, j'ai entendu les critiques sur notre dernière campagne de communication sur l'alcool. Nous allons donc rajouter une affiche sur la nécessité de ne pas oublier les cacahuètes avec l'apéro. Donc, globalement, voilà, les internautes
ont envoyé. Il faut savoir que dans la vie publique, il y a une institution qui est le petit verre de l'amitié.
Ben oui.
Donc, le petit verre de l'amitié, c'est
la base.
Ce qui clôt toute réunion publique ou non publique, d'ailleurs.
Donc, un petit mot donc, sur votre livre « Le déjeuner secret », mon cher Stéphane, qui est un déjeuner avec le président de la République à l'Élysée pendant la réforme des retraites.
Mais juste avant la première journée de manifestation, et c'était un déjeuner, on était 10 éditorialistes invités à l'Élysée, et ce déjeuner a fait scandale. Alors, moi, ça m'est resté en travers de la gorge, parce qu'en réalité, les déjeuners entre les politiques et les journalistes, c'est une pratique très très courante, ça fait partie, c'est la base.
C'est la base du métier,
j'allais dire. Tout le monde en fait, mais là d'un coup, et tout le monde en fait, et tout le monde le sait, et là d'un coup, en fait, on a eu l'impression qu'il se passait quelque chose de scandaleux, que les gens qui étaient à l'Élysée étaient des perroquets de la Macronie, des petits télégraphistes du pouvoir, que le président leur distillait des éléments de langage, que ce déjeuner était secret, qu'il était interdit d'en parler, ce qui est totalement faux, mais ça a moussé, ça a duré une petite semaine, et ce que j'ai trouvé, ce qui m'a, moi, un peu perturbé, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, d'insultes, etc., de gens qui, en toute bonne foi, ne sachant pas que la pratique existait, ont cru qu'effectivement, il y avait un manquement absolument phénoménal à la déontologie et que tout ça était la preuve qu'il y avait une collusion entre le pouvoir, la presse, que tout le monde était acheté, etc. Et ça n'est pas un essai, ce que j'ai fait, c'est un récit. Je dis, écoutez, voilà, si vous voulez savoir comment fonctionnent ces déjeuners, ce rituel-là, ces déjeuners très fréquents entre les journalistes et les politiques, je vais vous raconter moi une série de déjeuners qui ont eu lieu à ce moment-là, pendant la réforme des retraites. Donc j'en raconte une douzaine et je dis qui les organise, où ça se passe, comment ça marche, qu'est-ce qu'on se raconte à table. C'est un exercice de transparence en réalité, parce que une des choses qui m'a un peu blessé dans cette histoire, si vous voulez, c'est que un certain nombre de confrères ont beaucoup parlé du sujet, mais eux savent très bien que ces déjeuners existent, ils ont juste oublié de dire qu'ils en faisaient. Et vous avez un certain nombre de politiques qui ont crié au scandale en oubliant de dire qu'ils font aussi des déjeuners avec les politiques. Et donc, je trouvais que c'était plutôt intéressant de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Donc, après, chacun jugera. Hein. Moi, je cherche pas.
En plus, la confrérie des journalistes politiques n'est pas toujours la plus confraternelle. Voilà, j'ai dit ça.
On peut même enlever politique.
Voilà.
La confrérie des journalistes.
Mais vous avez un mot parce que de votre temps.
Non, mais attendez, ce serait priver les journalistes d'aller à la source de l'information. Oui. comment croyez-vous qu'on a de l'information, sinon en faisant parler les détenteurs de l'information. C'est absurde, mais ça renvoie bon, aussi
quand même... Ils sont là pour embrouiller aussi.
Au fond de sauce anti-élitiste, voilà, anti les médias et les politiques, tout ça, c'est la même chose. C'est absolument détestable, c'est parfaitement démagogique. Et il ne faut évidemment pas se
C'est assez différent
à cela.
De ce qui s'était passé du temps de Nicolas Sarkozy, si vous vous souvenez. Il draguait quand même les journalistes. On n'était pas dans un échange d'informations, mais dans la séduction.
Merci beaucoup. On est en retard. Merci à Fleur Simon, merci à toute l'équipe technique. À très vite.
Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
En ce moment, ce sont les jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. C'est deux fois plus de choix pour deux fois plus de confiance. Et ça, c'est uniquement chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical.
Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des trois derniers jours.